Les voix de l'égalité.
Acteur majeur de la lutte contre la maladie en France, la Ligue contre le cancer mène depuis plus d'un siècle des actions de prévention, d'accompagnement des patients et de soutien à la recherche. Dans le Val d'Oise, le comité départemental joue un rôle essentiel auprès des personnes touchées par le cancer ainsi que leurs proches. Nous rencontrons aujourd'hui sa secrétaire générale pour comprendre comment cette mobilisation se traduit concrètement sur le terrain et quels sont les défis à relever aujourd'hui. Agnès Rousseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire générale du comité du Val d'Oise de la Ligue contre le cancer.
C'est ça.
Pour commencer, quel est exactement votre rôle au sein de l'association et comment agit votre comité au quotidien dans le département ?
Donc, je suis secrétaire générale, c'est-à-dire je suis administrateur bénévole au sein du comité du Val d'Oise, donc de la Ligue contre le cancer. Mais en plus de cette activité, je m'occupe plus particulièrement de développer toutes les actions en direction des malades et des proches sur le département. Donc de mettre en place tout ce qui va être les actions, soins de support, et etc. pour les personnes malades.
Voilà. Il y a combien d'actions de mener ?
Oh, alors, énormément. En fait, le comité, vous savez, la Ligue contre le cancer, c'est une fédération. Mm-hmm. Donc, le comité du Val d'Oise fait partie de ces fédérations et travaille dans le cadre des missions qui sont statutaires. Donc, il y en a quatre dont vous avez déjà parlé. Il y a effectivement le soutien à la recherche, l'information du public et la prévention, l'accompagnement des personnes malades et des proches, et puis une mission plaidoyer, qui est la quatrième mission. Et donc, au sein du comité, bien sûr, on finance la recherche, mais aussi on est très impliqué au niveau de la prévention et de l'information du public, parce que je pense qu'avant de soigner et d'aider les personnes malades, c'est bien si on peut éviter d'avoir un cancer et éviter de tomber malade. Donc la prévention a un rôle très important au sein du comité et est réalisée grâce aux salariés que nous avons trois chargés de prévention au sein du comité. Et puis, bien sûr, quand les personnes sont malades, donc le comité propose des activités de soins de support, ce qu'on appelle les soins de support, c'est-à-dire ce sont des activités qui sont pas des soins de traitement, c'est pas un traitement contre le cancer, mais ça va aider à mieux supporter les effets secondaires de la maladie ou l'impact lui-même de la maladie. Et donc, on propose ces activités à la fois aux personnes malades, aux proches, qu'elles soient en début de traitement, pendant les traitements ou à la fin des traitements, puisque je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, mais l'après-cancer est une préoccupation importante pour les personnes malades. Donc voilà. Alors, je peux donner... En fait, on partage notre activité sur Argenteuil, aux deux boulevards Jean-Alman, où le comité est implanté, mais aussi sur Villiers-le-Bel, grâce à la mairie, enfin à la commune donc de Villiers-le-Bel qui nous propose des salles gratuites et pour lesquelles on essaye, alors ça fait pas depuis très longtemps, ça fait depuis 3 ans, ça sera la 3e année là, de développer aussi des soins de support sur cette partie est du département qui... Et on peut le dire pauvre peut-être en action en direction des personnes malades. Donc voilà. Donc et je fais un appel parce que je sais que vous rayonnez jusqu'à ces communes et donc ça a du mal à se mettre en route, on n'a pas assez de patients et donc c'est important, si les personnes m'entendent, de pouvoir nous rejoindre de façon à ce qu'on puisse continuer à financer ces soins de support sur cette partie du département.
Quels sont les besoins les plus fréquents des personnes atteintes de cancer que vous accompagnez ?
Donc, les besoins les plus fréquents, j'ai envie de dire, sont peut-être différents en fonction des temps de la maladie. Le premier, souvent, quand on a l'annonce d'un cancer, c'est un choc dans une vie. Et à ce moment-là, c'est vrai que les personnes ont besoin d'écoute et peut-être d'une écoute plus professionnelle. Donc, on a une psychologue qui est salariée du comité et qui peut recevoir à la fois les personnes mais aussi les proches, faire de la médiation, que ce soit les personnes malades mais aussi leurs enfants, enfin, pour pouvoir les aider à surmonter cette épreuve. Mais il faut dire que pendant alors à part la période de l'annonce qui est compliquée et après qu'il faut s'organiser, il y a aussi des difficultés financières qui sont liées à la maladie. Tout dépend de l'âge de la personne, mais Aujourd'hui, au sein du comité, nous avons des personnes de plus en plus jeunes qui sont donc en activité salariée, qui ont des enfants et pour lesquels il va falloir aider à pouvoir assumer les traitements, la garde des enfants et l'arrêt de travail. La maladie, pour certaines personnes, tout dépend des conventions qui sont signées par les employeurs, peuvent rencontrer des difficultés financières, puisque les indemnités journalières, c'est que la moitié d'un salaire et que vos charges restent les mêmes. Donc c'est vrai qu'on a au sein du comité une commission sociale et on peut attribuer des aides financières aux personnes. Ça passe par les travailleurs sociaux du département qui nous font une évaluation et notre commission va statuer. Bien sûr, on ne peut pas combattre par rapport aux grandes institutions comme l'assurance maladie ou la caisse d'allocation familiale, mais ça peut aider. En fait, on peut aider à payer un loyer, payer des factures d'électricité, puisque voilà, ça, c'est sur évaluation. Donc ça, c'est la prise en charge financière. Il y a aussi on peut apporter une aide sur une aide sociale, en fait, sur les difficultés qui sont rencontrées, où s'adresser, comment faire pour mon dossier. Voilà, ça aussi, on propose avec une bénévole qui est une ancienne assistante de l'assurance maladie, justement, et qui nous a rejoint au moment de sa retraite. Voilà, c'est ça. Et puis, les personnes se retrouvent, en fait, votre vie peut basculer d'un moment. Vous êtes en activité ou vous avez... et d'un seul coup, la maladie arrive, vous vous arrêtez de travailler. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver que dans un milieu que vous ne connaissiez pas, qui est le milieu hospitalier, le milieu médical. Et votre vie se transforme. Donc, c'est important aussi pour les personnes de pouvoir continuer à avoir des activités de façon à ne pas rompre le lien social et à toujours être... être dans la vie, en fait, dans la vie sociale. Donc, on propose des activités comme la sophrologie, on a des activités autour de la nutrition, puisque c'est un réel souci aussi pour les personnes, mais aussi l'activité physique adaptée. L'activité physique, à la fois pendant les traitements et à la fin des traitements, a de réels bénéfices par rapport à cette maladie. Pendant les traitements, ça va permettre de diminuer les effets secondaires des traitements qui sont donnés. Et à la fin des traitements, ça permet d'éviter, pas en totalité, mais d'éviter les récidives. Donc, ça a vraiment un réel impact, l'activité physique adaptée. Mais on a aussi plein d'autres activités plus ludiques, comme une chorale, un atelier de tango argentin, un atelier côté jardin, parce que travailler auprès de la nature, c'est aussi bénéfique pour les malades. Et puis, de l'art-thérapie, on a aussi un ostéopathe qui intervient, une socio-esthéticienne. Voilà, on peut proposer tous ces services. Et quand les personnes arrivent vers la fin de leur traitement, on a un atelier d'aide au retour à l'emploi, parce que voilà, c'est pas toujours facile de redémarrer dans la vie professionnelle et sociale après cette maladie.
Il y a une bonne prise en charge. Oui. Et en ce qui concerne l'entourage, vous les soutenez à l'annonce
tout
de
à
la
fait,
maladie,
tout
pendant et l'après aussi.
Alors, l'après...
Ça se passe comment?
Comment ça se passe? C'est vrai qu'un malade du cancer, en fait, une personne malade, au moment de l'annonce et pendant la maladie, en règle générale, est entouré. Bon, il y a des exceptions, il y a des moments, mais même si on n'a pas une famille proche, on a souvent des amis qui vont être proches. Et donc, les personnes sont entourées pendant la maladie. Et puis, quand arrive la fin des traitements, en fait, les amis, la famille, voilà, c'est terminé. Hein. On arrive à la fin de la radiothérapie, par exemple. Il y a eu la chimio, de la radiothérapie, des interventions. Maintenant, le traitement, on dit que on arrive en rémission. Et donc, à ce moment-là, pour tout l'entourage, c'est top. On reprend sa vie d'avant. Le malade ne peut pas reprendre sa vie d'avant comme ça, aussi facilement. C'est très compliqué. Et donc, alors, il est culpabilisé parce qu'il se dit, mais pourquoi j'arrive pas à redémarrer? Qu'est-ce qui fait que je... Et en même temps, parce qu'en fait, moi, j'ai eu un cancer, hein, donc je peux en parler de connaissance de cause. Je dis toujours que la partie de la maladie, ça n'a pas été la plus difficile. Bon, il y a les traitements, effectivement, mais on est entouré, on voit le médecin régulièrement, les amis sont là, les proches, enfin, vraiment, on se sent entouré. Et quand arrive l'après-cancer, à la fin, Moi, je suis tombée malade, enfin, j'ai eu un cancer du sein. Je suis tombée malade en bonne santé, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que bah, souvent, une personne qui a un cancer du sein, on va le détecter lors d'une mammographie ou, lors d'un, ou alors elle va trouver une boule, mais il n'y a pas de douleur et de... Bon, il y a une fatigue, mais... Et en fait, j'étais en bonne santé. Je faisais de l'activité, j'avais plein de choses. Et à la fin des traitements, j'étais plutôt en mauvaise santé. Parce qu'après la chimio, les rayons, physiquement, vous avez changé. J'ai eu l'ablation des deux seins. Vous ne vous reconnaissez pas. Vous avez perdu vos cheveux. Vous n'avez plus de sourcils. Voilà, c'est, il faut redémarrer. Et en plus, on a l'angoisse de, que cette maladie recommence. Et on se dit, mais bon, voilà, est-ce que c'est vraiment fini? Est-ce que c'est terminé? Donc voilà, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On a l'impression d'avoir perdu de la mémoire, manque de concentration. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et voilà, on vous dit, maintenant, vous êtes prêt à repartir. Il faut se reconstruire et il faut un temps. Souvent, c'est ce qu'on dit aux personnes, c'est pas une angine, c'est pas une grippe, c'est pas parce que vous avez pris des antibiotiques qu'après vous reprenez votre travail. Une fois les traitements terminés, il y a un temps de convalescence à avoir pour se reconstruire, pour mettre à profit ce temps, pour pouvoir... Voilà, justement, la Ligue finance pour les personnes malades, qui pour beaucoup nous disent qu'elles, ben voilà, j'arrive plus à lire, j'arrive plus à me concentrer, je sais pas ce qui se passe. C'est comme si on m'avait retiré un morceau du cerveau. Enfin voilà, il y a et donc pour les amener à réfléchir, on propose de participer en fait à une association qui s'appelle Oncogite, qui est une association avec des neuropsychologues et à travers des exercices, ça se fait sur par internet, hein, par visio. Sur des ateliers, il y a 12 ateliers qui vont permettre en fait de faire retravailler la mémoire pour récupérer et pouvoir reprendre ou une activité professionnelle ou une vie sociale correcte, hein. C'est pour toutes les personnes parce que c'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on n'a plus une vie sociale développée dont on n'a pas besoin de récupérer ses capacités cognitives en fait.
Mais ça prend du temps, hein.
Ça prend du temps et on peut pas dire que chaque personne est différente. Oui. Chaque personne aura son modèle, sa façon d'aborder les choses. Et il y aura un peu plus de temps pour certaines, un peu moins de temps. La prise en charge psychologique est importante aussi à ce moment-là. Et donc j'ai envie de dire que les proches sont souvent aidés à l'annonce et pendant la maladie. L'après-cancer, alors après, ça c'est quand ça se passe bien. Qu'il n'y a pas de récidive, qu'il n'y a pas de rechute et que la vie reprend. Il y a aussi, malheureusement, même si au jour d'aujourd'hui, on soigne plus de 60% des cancers, même presque 70%, il y a encore des cancers de mauvais pronostic et il y a encore, malheureusement, un trop grand nombre de personnes qui décèdent. Et voilà. Et là, le soutien aux proches est très important pour cette partie de fin de vie.
La prévention est un pilier de vos actions. Comment sensibilisez-vous la population au risque et au dépistage ?
Alors, voilà, on est très impliqué par rapport au dépistage et à tous les dépistages. Donc, je vous ai dit, on a 3 chargés de prévention. Mmh. On travaille aussi en premier, j'ai envie de dire, auprès des jeunes. Mais des jeunes jeunes, c'est-à-dire qu'on intervient dans les écoles, dès le CP, et jusqu'au CM2, avec des conférences de prévention. Alors, on ne va pas parler cancer à un enfant de CP, on ne va pas lui parler de cancer, bien sûr, mais c'est le sommeil, le soleil, l'activité physique, la nutrition, enfin l'alimentation. Et pour arriver à partir du CM2 à CM2, surtout, où on va parler des addictions, le tabac, puisque, bon, quand même, le tabac est source de cancer. Et donc, voilà, on a toute cette activité qui se fait dans les écoles, auprès des jeunes, pour qu'ils gardent leur capital santé et qu'ils adoptent des bons gestes, parce qu'il faut quand même savoir que 40% des cancers sont évitables. On a la main. Voilà, à partir du moment où on a une alimentation équilibrée, qu'on fait de l'activité physique, qu'on ne fume pas, qu'on boit très peu et même pas si on peut, voilà, on peut garder un capital santé qui va permettre d'éviter la maladie ou tout du moins de bien y résister. Donc c'est important de communiquer auprès des jeunes. On fait un agenda scolaire qui est distribué à tous les élèves de CM2 du département. Alors, c'est en fonction des écoles qui le souhaitent, parce qu'il y a des écoles qui n'en veulent pas, mais voilà, si toutes les écoles le veulent, toutes les écoles l'auront. Et en fait, c'est cet agenda scolaire qui est donné au CM2, il est fait par les élèves qui parlent aux élèves, puisqu'en fait, c'est lors des conférences de prévention qui sont faites dans l'année qui précède, des dessins sont faits par les élèves, et c'est ces dessins qui vont être mis dans cet agenda, des dessins de prévention. Donc ça va être avec des différents thèmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bon, on intervient aussi dans les collèges, mais là, c'est des actions un peu différentes. Et puis aussi dans les lycées professionnels, etc., où là, on va être plus sur l'addiction, le tabac, etc. Ça, c'est la prévention primaire. Mmh. On a aussi une chargée de prévention qui est vraiment dans la prévention, le dépistage, incitation au dépistage. Donc, on est dans toutes les grandes campagnes. Octobre rose, ça, c'est très connu. Aujourd'hui, on est mars, c'est mars bleu. C'est le mois du dépistage du cancer colorectal. Et donc, ça va se passer avec des stands, des ateliers qui sont menés par les chargés de prévention, et puis des stands à différents endroits pour communiquer. Mais il ne faut pas oublier aussi donc les deux grands dépistages, le cancer du sein et le cancer du côlon, mais aussi cancer de l'utérus, la vaccination HPV. On est très impliqué aussi auprès des jeunes par rapport à pour cette vaccination, qui est très importante, mais qui ne concerne pas simplement que le cancer du col de l'utérus, mais aussi des cancers ORL. Très nombreux, presque 80% des cancers ORL sont quand même liés au virus HPV. Peut-être pas 80, j'ai pas les chiffres exacts, mais une grande partie des cancers ORL. Donc voilà, ça touche tout le monde, ça touche hommes, enfin garçons et filles. Donc il est important que les deux soient vaccinés pour pouvoir éradiquer. Et là, on pourrait vraiment améliorer la prise en charge des personnes malades. Donc, on est sur les dépistages. On est aussi, jusqu'au mois de juillet, en fait, on avait les espaces sans tabac. Oui. Et donc, on aidait les communes à mettre en place des espaces sans tabac devant les écoles, devant les patinoires, devant la MJC, par exemple, enfin, dans les endroits où des jeunes se rendent. Il faut savoir, vous savez que la loi est passée donc, depuis le mois de juillet. Maintenant, il est interdit de fumer devant les espaces où il y a des jeunes, mais bon, ça ne se met pas si facilement que ça en route. En plus, nous, on faisait des campagnes, c'est-à-dire quand on mettait un espace sans tabac en place devant une école, il y avait un travail qui était fait avec les classes, en fait, dans l'école pour leur expliquer l'intérêt, le pourquoi. Et souvent, c'était les enfants qui allaient parler à leurs parents pour leur montrer pourquoi ça avait un rôle de ne pas fumer devant l'école. Donc voilà, il y a ça. Et donc, on est vraiment sur à peu près, j'ai envie de dire, toutes les mesures de prévention qui peuvent se faire au niveau du département.
Est-ce que c'est difficile de faire passer ces messages de sensibilisation ?
Oui. 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 Oui, c'est difficile. Alors, Octobre rose, je pense que les gens sont de plus en plus motivés, mais c'est pas pour autant que la mammographie, que le pourcentage de personnes qui vont à la mammographie sont top. On est à peine à 50% sur le département. Ce sont pas des bons chiffres. Il faudrait être à 80% pour que ça ait vraiment un réel impact. Donc on communique. On n'a pas le rendu tout de suite. Hein, ça c'est évident. On est dans la prévention. Donc Bon, le tabac, par exemple, les jeunes, il y a des études aujourd'hui qui démontrent que les jeunes fument moins. Donc ça, c'est hyper important. Voilà, on se dit que à chaque fois qu'on peut échanger, je trouve que quand même les jeunes populations évoluent, que les personnes aussi. Je vois quand on a des stands pour Octobre Rose, on a un buste pour pouvoir justement faire de l'autopalpation. Il n'y a pas que la mammographie. Quand on est jeune aussi, c'est intéressant de savoir comment est-ce que soi-même, on peut surveiller ses seins et être vigilant à découvrir quelque chose. Et en fait, on se rend compte que c'est homme-femme. Les hommes aussi viennent pour voir comment on fait l'autosurveillance mammaire. Et donc, voilà, ça, c'est bien. Enfin, je trouve que c'est positif. Le dépistage du cancer du côlon, c'est hommes et femmes. On devrait avoir le double de personnes qui y vont. Et là, c'est à peine 30%, c'est pas le cas. Il faut espérer que ça va évoluer. Tout est mis en place pour essayer de faciliter au mieux ce dépistage. Mais voilà, il faut du temps, je pense, que les mentalités évoluent et que les choses évoluent de plus en plus. Depuis cette année, on voit, parce qu'on est aussi dans le mois sans tabac, le mois de novembre, mais au mois de novembre, c'est les cancers masculins. Et c'est la première fois que cette année, on nous a demandé des interventions spécifiques concernant les cancers masculins. Donc ça, c'est une grande avancée parce que les hommes par rapport aux femmes prennent moins soin d'eux. Enfin, sont,
d'accord.
C'est pas des personnes qui vont plus facilement voir le médecin. Mm-hmm. C'est vrai que les femmes, bon, on est habitué depuis, tu sais, on a des enfants et autres, on a toutes vu obligatoirement des médecins pour le suivi. Que pour les enfants, on les emmène facilement chez le médecin. Enfin, on a une démarche au niveau de la prise en charge, au niveau santé, qui est différente de celle des hommes. Eh bien, cette année, je suis même intervenue à la patinoire de Cergy, lors d'un match de hockey sur glace, pour parler des cancers masculins lors d'un des entractes, enfin des temps de pause. Donc c'est vraiment, il y a déjà une demande de personnes jeunes qui s'intéressent effectivement aussi aux cancers masculins. C'est une avancée, je trouve.
D'accord. Mais malgré les progrès médicaux, le cancer reste une maladie qui fait peur.
Oui, tout à fait.
Selon vous, qu'est-ce qui explique encore cette peur?
C'est une maladie, d'abord, qui entraîne des décès, dont on a beaucoup parlé. J'ai envie de dire, c'est ce que je disais dernièrement à un groupe, parce qu'on anime des groupes aussi au niveau du comité, aux personnes. Si les personnes qui sont vivantes, qui ont eu un cancer et qui reprennent leur activité et vont bien, n'en parlent pas, on aura toujours dans l'idée que le cancer fait mourir, puisqu'on ne sait qu'une personne a eu un cancer que quand il meurt, en fait, en règle générale. Voilà. Donc, dans la tête de toute personne, le cancer égale mort. Alors que, il y a encore... Donc, je pense que ça reste quand même une maladie qui fait peur, avec des traitements qui sont lourds, avec des traitements qui sont longs. Donc, on ne peut pas gommer ça. Mais il y a quand même de grandes améliorations, de grandes prises en charge. Et on travaille aussi dans les entreprises. Mmh. Alors, on a une action qui s'appelle Ligue Entreprise et qui nous permet d'intervenir dans les entreprises, à la fois sur le domaine de la prévention par rapport aux collaborateurs, mais aussi sur comment aider les collaborateurs à faciliter ou à mieux... comment je me comporte si j'ai un collègue à moi qui a un cancer au moment de l'annonce, pendant l'arrêt de travail et à la reprise. On a un jeu de photos, enfin, si vous voulez, des images que l'on fait voir. Et dessus, il y a des personnes qui sont en train de faire de l'activité physique, qui font notre truc, qui sont au restaurant, mais qui sont aussi dans un lit. Et on leur demande quelle est la personne malade. Donc, tout de suite, ils vont aller vers la personne qui est dans son lit. Alors qu'en fait, la personne, elle peut être... En fait, le cancer, il y a des personnes que vous côtoyez qui ont un cancer, vous ne le savez pas parce que maintenant, il y a des... les gens, à part au moment de la chimio, quand ils ont une chimio, il y a 8 jours ou 8, 15 jours qu'on n'est pas bien et après, on va très bien. Voilà. Et donc, c'est vrai que souvent, quand on va voir son employeur ou ses collègues, on ne va pas y aller le lendemain de la chimio. On y va juste avant de reprendre une chimio, on se maquille, on se coiffe, on s'habille bien. Et là, on entend, dis donc, t'as bonne mine, des choses qui blessent en fait les malades. Donc je pense que...
Est-ce qu'il y a de la demande ?
La demande.
Est-ce qu'il y a de la demande dans les entreprises ?
Ah oui. Et après, on peut aller jusqu'à... On a un jeu donc qu'on propose qui s'appelle un Serious Game qu'on propose dans les entreprises pour et on peut aller jusqu'à la formation de manager. Et on a des entreprises sur le Val d'Oise qui ont été jusqu'à la formation des managers, oui, pour faciliter le retour à l'emploi d'une personne malade.
Alors, la Ligue repose aussi sur la mobilisation citoyenne.
Tout à fait.
Quel rôle jouent les bénévoles dans vos actions ?
Un grand rôle, un très grand rôle, parce que... il faut savoir que la Ligue contre le cancer, on est reconnu d'utilité publique. Donc, tout ce qui est proposé aux personnes malades est gratuit. Tout ce que l'on propose, que ce soit, c'est offert. Et donc, on vit grâce à la générosité du public. C'est-à-dire qu'on ne vit que grâce aux dons qui sont faits par les personnes du Val d'Oise, qui habitent le Val d'Oise et qui nous font un don. Ça, c'est l'argent qui nous permet de mettre nos actions en route. Donc, on essaye au maximum de faire fonctionner le comité avec le moins d'argent. Si vous voulez, on veut que l'argent qui est donné par les donateurs soit vraiment redistribué dans la lutte contre la maladie et pas pour faire fonctionner ce comité. Donc, on a peu de salariés. On a 2 salariés, une coordinatrice du comité qui est là pour être effectivement, qui fait l'accueil des personnes malades, qui fait la vie du comité, et une comptable. Et après le reste, je vous ai dit, on a une psychologue, mais elle est dédiée aux missions. On a 3 chargés de prévention qui sont aussi dédiés aux missions. qui font du travail pour lutter contre la maladie, en fait. Et après, le reste, on le fait avec des bénévoles. Donc, on a des bénévoles, qui viennent, vous savez, du mécénat de compétences. Dans des entreprises, certaines entreprises adhèrent à ce mécénat de compétences qui permet, quand vous arrivez à la fin de proche de votre retraite, vous pouvez, au lieu de terminer les 2 années ou les 3 années avant de prendre votre retraite dans l'entreprise, vous pouvez détacher dans une association à mi-temps. Vous êtes financé par l'entreprise, c'est l'entreprise qui est toujours l'employeur et qui va vous verser alors un salaire qui est réduit, bien sûr, mais ça c'est en fonction des conventions qui sont au sein de l'entreprise. Et la personne est dédiée à une association. Et donc là, nous avons des mécénats de compétences. On a eu, ces personnes sont venues au comité sur une action, souvent la prévention ou de l'accompagnement. Et une fois le mécénat terminé, elles restent parce qu'elles étaient au comité, elles ont vu comment ça fonctionnait, et elles ont des compétences professionnelles qui font qu'elles peuvent mener à bien des projets, réaliser des actions, puisqu'en fait, on est aussi dans du patient ressource, c'est-à-dire on fait des formations pour des patients qui vont eux-mêmes aller témoigner après de la maladie dans les écoles d'infirmières, donc il y a différentes actions qui sont menées. Je peux pas parler de tout, mais on fait beaucoup d'autres choses. Et donc les bénévoles, après avoir une formation, puisqu'on peut pas envoyer les bénévoles comme ça auprès du public sans formation, ils doivent bien donc si c'est Octobre Rose et qu'on tient des stands pour Octobre Rose, à ce moment-là il y a une formation qui est faite avant pour que les termes qui soient employés soient les bons et qu'ils puissent donner les bonnes informations. Ils n'y vont jamais tout seuls. Il y a toujours une personne référente qui est avec eux. Mais voilà. Donc, on a Octobre Rose. Il faut savoir que, en fait, il n'y a que 30 jours dans le mois d'octobre et on a 72 ou 75, quand ce n'est pas 80 interventions. Donc, vous imaginez que si on n'est pas nombreux pour se démultiplier, on ne va pas y arriver. Donc, voilà. Et on a tous les profils. Il y a des jeunes qui nous rejoignent, qui ont du temps libre à nous donner une demi-journée par semaine ou une fois par mois ou au moment des temps forts dont on a besoin de bénévoles, mais aussi des personnes plus âgées. On a besoin à tout niveau. On a besoin pour nous aider dans les tâches administratives du comité, parce qu'il y en a. Donc on a des personnes qui nous rejoignent parce qu'elles disent « moi, je maîtrise bien l'informatique et je peux vous faire ». On a actuellement une bénévole qui avait des compétences. On avait besoin de faire une newsletter et nous, on ne savait pas trop. Donc elle met ses compétences à notre service et c'est elle qui organise la newsletter. On a besoin de tous les corps de métier, j'ai envie de dire, de toutes les personnes qui veulent, de tout âge et qui viennent bien nous aider. Et donc, on essaye de fonctionner essentiellement avec des bénévoles.
Est-ce que vous avez un exemple d'initiative locale qui vous a particulièrement marqué ces dernières années ?
Je pense que toutes les initiatives sont bonnes, je trouve, on travaille avec une institution, c'est une association, mais qui n'a pas vocation en fait à travailler par rapport à la maladie, qui est dans la proposition de formation professionnelle pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. C'est le PLI, vous connaissez, c'est le programme local par l'insertion, en fait. Et donc, c'est le PLI d'Argenteuil-Beson nous a rejoint il y a 3 ans, nous a contactés en disant, on a envie de mettre ensemble des personnes qui sont éloignées de l'emploi, pour lesquelles on leur propose un stage de formation professionnelle, et puis les malades que vous avez qui sont, elles aussi, dans la recherche d'une reprise d'activité professionnelle. Et au lieu de faire ça pendant le mois d'octobre, on va faire ça à Noël, au moment de décembre, et on va appeler ça le Noël Rose. Et donc, on a fait la 3e édition du Noël Rose, là, et voilà. Et tous les ans, on recommence. Et ça permet... je trouve que c'était une bonne initiative, puisque c'est des publics qui sont éloignés, des fois, de la maladie. Ça permet aussi que chacun échange et voit. Donc, ils ont, pendant un mois, du mois de mi-novembre jusqu'à mi-décembre, des activités qui sont proposées par le PLI. Ça peut être de la boxe, activité physique, de la sophro. Enfin, il faut différentes activités ensemble. Et puis, il y a un temps fort. un jeudi de la journée complète où tout le monde se retrouve autour d'un buffet et va partager. Voilà, ça c'est une des initiatives. Et d'année en année, bah, les entreprises se mobilisent. Là, cette année, des entreprises nous ont fait des dons. Donc ça nous a beaucoup aidé, ça nous aide, hein, dans nos missions, en fait, pour la réalisation de nos missions. Et en même temps, une entreprise m'a dit, bah, si vous voulez, moi, je propose à des malades que vous avez qui sont en recherche d'emploi, parce qu'on a tous les malades, des fois, il y a tous les cas de figure. Il y a ceux qui ont perdu leur emploi, il y a ceux qui étaient en CDD avant et qui l'ont perdu parce qu'ils étaient malades au moment de la fin, donc voilà, et qui ont besoin de redémarrer. Et donc elle me dit, si vous voulez, moi je peux proposer de faire une formation et de les embaucher à la suite de leur reprise. Voilà, c'est des... chacun met un petit peu, et comme ça on va arriver à faire de belles choses.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous touche ou vous surprend encore dans la manière dont les personnes vivent la maladie ?
Moi, je trouve que ce sont des personnes très courageuses. Et qui mettent un dynamisme et une force importante. Vous savez, il y a la maladie, il y a les traitements. Mais avant les traitements, on fait énormément d'examens qui peuvent être douloureux, pour lesquels on n'était pas du tout préparé. Et d'ailleurs, on en parlait, on avait une réunion hier avec justement un des ateliers retour à l'emploi où les personnes échangeaient sur... On démarrait, hein, donc on essayait de faire connaissance. Et voilà, c'est ce qui a été dit. Chacune a abordé de manière différente sa maladie parce que, voilà, en fonction de la culture, d'où on vient, de qui on est, de... Voilà, de tout, tout une façon différente d'aborder les choses, mais toutes ont bien reconnu qu'en fait, c'était avec beaucoup de courage, parce que voilà, c'est des personnes qui... En fait, les personnes malades du cancer sont des personnes plutôt positives. On fait des ateliers de retour à l'emploi, et lors d'un des ateliers, il y a une DRH qui intervient, une directrice des ressources humaines d'une grosse entreprise du Val-d'Oise, qui vient bénévolement. Et quand elle a commencé à faire, ça fait plus de 10 ans, hein, qu'elle vient, et quand elle a commencé à venir, lors de la première réunion, à la fin, elle m'a dit, je suis étonnée, je ne pensais pas trouver ce type de personne, en fait. Les personnes malades du cancer, en fait, quand il faut reprendre leur activité, elles ne sont pas à se dire, oui, je suis, voilà, c'est un tel qui m'a fait, j'ai eu ceci, c'est de la faute de... Non, non, c'est... elles qui sont en ligne de compte et qui se disent, il faut que j'avance moi, c'est moi qui dois retrouver, c'est moi qui dois faire le travail pour aller mieux, etc. En fait, voilà, donc c'est des personnes plutôt volontaires, je pense, en règle générale, et qui, moi, je trouve, beaucoup de courage.
Et puis, pour terminer, quelles sont les priorités du comité du Val-d'Oise pour les prochaines années ?
Améliorer la prévention. Je pense que ça, c'est hyper important. Et puis bah, continuer à aider les personnes et à mettre en place des actions, mais je pense qu'il faut, et puis il n'y a pas que le comité, enfin je sens qu'aujourd'hui, parce que nous ça fait très longtemps qu'on fait de la prévention, hein. Moi ça fait longtemps que je suis au comité, la prévention, on y a commencé en 2005 à avoir des professionnels pour faire de la prévention, avant c'était un peu des bénévoles, donc vraiment on s'est vraiment orienté de façon à apporter vraiment des personnes qui sont, on prend des masters en santé publique, enfin voilà, des personnes qui ont des compétences pour pouvoir développer ça. Et je trouve qu'au niveau du gouvernement, en fait, ça fait quoi, à peine 10 ans qu'on entend parler, que l'axe est mis de manière plus forte sur la prévention. Avant, c'était la dernière roue du carrosse, j'ai envie de dire. Donc là, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'il faut vraiment améliorer la prévention à tous les niveaux, et voilà, pour pouvoir voilà, et puis financer la recherche, parce que il y a ça aussi, hein. Au jour d'aujourd'hui, il y a des nouveaux traitements qui font que des personnes décédaient en un an de temps pour les cancers du poumon, par exemple. Et aujourd'hui, je ne dis pas que voilà, c'est la panacée, mais on peut vivre au moins 5 ou 6 ans, ce qui est quand même toujours mieux, le temps que d'autres traitements soient trouvés. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Une nouvelle molécule va être découverte et on va permettre d'avoir une meilleure prise en charge. Moi, je suis assez optimiste.
Agnès Rousseau, merci d'avoir répondu à mes questions.
Je vous en prie.
À travers ce témoignage, on comprend que la prévention est un pilier des actions menées par la Ligue contre le cancer. Bien entendu, ceci n'était qu'une expérience sonore. Les voix de l'égalité.